Nous allons maintenant entendre la docteure Josette Champagne. Bonjour. Je vous la présente rapidement, même si elle a une feuille de route hallucinante et passionnante. Elle est hémato-oncologue au CHU Sainte-Justine, professeure agrégée de clinique département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle a été la directrice de programme d'hématologie-oncologie pédiatrique. Elle est, je crois, toujours responsable des laboratoires d'hématologie spéciale. Right. Elle est toujours responsable du programme des lymphomes. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement, la docteure Josette Champagne.
Merci et bonjour à tous. On va faire une petite incursion dans les lymphomes en pédiatrie. J'ai changé un petit peu le titre des lymphomes pédiatriques parce qu'en fait, il y a très peu de lymphomes qui sont spécifiquement pédiatriques, mais il y a certainement des différences à l'intérieur. Comme vous voyez déjà, c'est déjà un petit peu plus coloré comme présentation avec le monde pédiatrique. Oups, je ne sais pas.
C'est celui de droite.
Celui de droite. Donc, pourquoi en parler des lymphomes pédiatriques? Si on regarde les causes de décès chez l'enfant de 1 à 14 ans, outre les accidents qui comprennent accidents, suicides et autres, la deuxième cause de décès en pédiatrie chez les enfants de 1 à 14 ans, et ce sont les cancers, donc 12 % des décès. Si on prend la population des adolescentes, à ce moment-là, on tombe à 5 % des décès sont secondaires au cancer. Et c'est aussi la deuxième cause de décès en pédiatrie. Si on regarde à l'intérieur des cancers et qu'on regarde la population des enfants plus jeunes, le lymphome ou le groupe des lymphomes est le troisième cancer le plus fréquent, qui comprend environ 10 % des cancers. Si on regarde, par contre, à l'adolescente, et c'est un peu les mêmes statistiques chez le jeune adulte, ça devient le cancer qui est le plus prépondérant avec au moins un peu plus du quart ou alentour du quart des patients qui ont un cancer vont avoir un lymphome. Si on regarde un tout petit peu l'incidence, puis on essaie de regarder l'incidence en pédiatrie, mais on se trouve avec environ 65 patients par million de population de cet âge-là versus environ 450. Donc, l'incidence est beaucoup plus faible en pédiatrie des lymphomes qu'en adultes, cependant. Donc, les lymphomes d'âge pédiatrique, donc des 0 à 21 ans, ça comprend environ 3 % de tous les lymphomes qu'on va retrouver dans la population. Oups, j'ai un petit peu de misère avec mon... En pédiatrie, comme chez les adultes, on va trouver deux grandes familles, avec certaines distinctions cependant. Donc, on a la famille des lymphomes Hodgkiniens dont on a parlé jusqu'à présent. Parmi les différences, il y a certains types qu'on va retrouver un peu plus fréquemment, qui sont les lymphomes mixtes, qui sont les lymphomes qu'on retrouve souvent chez les enfants plus jeunes, en bas de 10 ans, et qui sont une association particulière avec le virus de l'EBV ou de la mononucléose. On va retrouver aussi un lymphome, en fait, qu'on ne retrouvera pas, qui sont les lymphomes pauvres en lymphocytes, qui ont un pronostic qui est très mauvais et qui est souvent chez les personnes plus de 60 ans. Si on regarde les lymphomes non-Hodgkiniens en pédiatrie, de la même façon, on va les classer selon le type de lymphocyte qui s'est transformé en lymphome, soit les lymphomes B ou les lymphomes T. Cependant, au lieu d'avoir les 50 lymphomes que vous allez retrouver en médecine adulte, on va peut-être arriver à trouver les 50 sortes de lymphomes, mais 95 % des lymphomes qu'on retrouve en pédiatrie, ce sont des lymphomes agressifs ou des lymphomes qu'on appelle très agressifs. L'avantage, c'est que ce sont les lymphomes agressifs qui répondent aussi aux traitements, qui répondent les mieux, que ce soit à la radiothérapie ou que ce soit à la chimiothérapie, d'où des taux de guérison qui sont beaucoup plus importants, en fait, souvent en pédiatrie, si on prend le groupe de lymphomes dans son ensemble. Donc, si on essaie de comparer les lymphomes adultes aux lymphomes pédiatriques, comme vous voyez, 95 % sont des lymphomes agressifs versus le lymphome folliculaire qui couvre à peu près le quart des lymphomes adultes qu'on retrouve très rarement. Et même dans la forme qu'on retrouve très rarement chez l'enfant, ils ont des critères qui sont différents des lymphomes folliculaires adultes qui en font un lymphome qui est plus agressif dans sa présentation. Et contrairement aux lymphomes folliculaires adultes, ce sont des lymphomes qui habituellement sont localisés et ont très, très peu de rechutes. Donc, un traitement et souvent même une chirurgie seule, lorsque c'est un ganglion isolé, amène une guérison, en fait, une cure définitive chez eux. Mais si on regarde, par exemple, pour les lymphomes du côté adulte, bien là, la population, les lymphomes, il y a une beaucoup, beaucoup plus grande variété à l'intérieur de ces lymphomes-là. Si on continue avec les lymphomes non-Hodgkiniens, donc qu'est-ce qu'on voit aussi, étant donné l'agressivité de nos lymphomes, les taux de survie à long terme sont beaucoup plus élevés aussi en pédiatrie. Donc, si on regarde les stades précoces, environ 95 % des enfants vont survivre leur lymphome lorsque c'est d'un stade 1 et 2, donc une maladie qui est localisée. Sauf peut-être pour les lymphomes lymphoblastiques, qui sont l'équivalent de lymphome des leucémies lymphoblastiques qu'on retrouve plus fréquemment, la leucémie en fait qui est la plus fréquente chez l'enfant, où les taux, les succès sont un peu moins grands, mais quand même assez élevés là, pour un cancer. Si on regarde les formes intermédiaires, on se retrouve aussi avec des taux qui sont de l'ordre de 80 à 90 % des enfants qui vont avoir une survie à long terme. Et pour les stades avancés, les taux de survie à long terme sont élevés. Cependant, ces lymphomes agressifs-là, malgré les taux de succès élevés dans une première intention, il est très exceptionnel lors de récidive d'être capable d'avoir une deuxième chance de guérison. C'est très occasionnel. La majorité des enfants qui récidivent avec des lymphomes non-Hodgkiniens vont décéder malheureusement de leur lymphome. Si de notre côté, on regarde les lymphomes Hodgkiniens, qui sont ceux qui ressemblent un petit peu plus à la population adultes de lymphome Hodgkinien, les taux aussi ont en général plus élevés. Donc, on va parler de stade 1A, donc sans symptômes B, comme on a décrit, de perte de poids, de fièvre ou de sudation nocturne. Environ 95 % des enfants vont avoir une survie prolongée ou une survie à long terme. Les stades intermédiaires sont de l'ordre de 80 à 90 % et les stades avancés aussi sont quand même élevés de 70 à 80 %. Et pour les lymphomes Hodgkiniens, ça a une importance un petit peu dans la décision des traitements qu'on va appliquer chez les enfants. Environ 50 % des récidives, lorsqu'elles sont plus après un an sans traitement, vont être capables d'être récupérées dans un deuxième temps. D'où, quelquefois, la modification des traitements initiaux pour essayer de diminuer les complications à long terme qui va se produire dans notre population. Si on regarde, et c'est des études récentes, si vous regardez, c'est un papier qui est apparu avec une chimiothérapie qui est beaucoup plus agressive que ce qu'on fait en général. Mais par contre, chez des lymphomes Hodgkiniens qui sont de stade avancé, si vous regardez les taux de survie dans cette étude-là qui est sortie récemment, et dans d'autres aussi, mais sur des groupes qui ne sont quand même pas énormes, on a des taux de survie qui sont au-dessus de 95 %, ce qui est très élevé. Mais si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Les taux de survie sont souvent les taux de survie à 5 ans. C'est que malgré des taux de survie qui sont élevés, après 5 ans, ce qu'on voit graduellement, c'est que si on compare, et ce sont des statistiques américaines, si on regarde la population d'enfants du même âge qui n'ont pas eu de cancer, donc la population générale d'enfants du même âge, si on regarde 5 ans après leur diagnostic, la courbe de survie des enfants qui ont eu un lymphome, elle diminue de façon régulière par la suite. Donc, la survie, malgré une guérison du lymphome, on s'aperçoit que les taux de décès sont beaucoup plus élevés dans cette population-là. D'où l'importance encore plus de parler des traitements et des effets à long terme chez les patients. 20 ans après un diagnostic de lymphome, actuellement, on a plus de décès, de complications des traitements associés au lymphome de Hodgkin que l'on en a par la maladie. Donc, on a décédé de la maladie au départ, et après 20 ans, graduellement, dans les années qui suivent, les taux de décès, de complications augmentent, et pour finir, qu'on décède actuellement plus souvent d'une complication des traitements lorsqu'on a un lymphome de Hodgkin que de la maladie elle-même. Et ça a une importance encore plus importante. L'importance est encore plus grande quand on a 16 ans et on a un lymphome de Hodgkin. 20 ans après, bien, on a 36 ans. On n'en a pas 80 ou 106 de façon virtuelle. Donc, c'est une chose qui est particulièrement importante comme complication à long terme dans la population pédiatrique et dans la population de jeunes adultes. Si on continue un tout petit peu plus loin, les résultats que l'on a actuellement sur les effets à long terme sont basés, en fait, sur des traitements qu'on utilisait dans les années 60 et 80. À ce moment-là, pour la majorité des lymphomes, le traitement de base était de la radiothérapie, qui a été démontré comme un des premiers traitements curatifs chez le lymphome, qui était associé plus ou moins à de la radiothérapie. Les lymphomes non-Hodgkiniens, qui sont des lymphomes agressifs en pédiatrie, subissait deux types de radiothérapie. Une qui était un contrôle local pour la maladie Et il y a un autre type de radiothérapie qui était une prophylaxie du système nerveux central, puisque c'est un des sites où les cellules lymphomatoses vont se loger, particulièrement quand on a des lymphomes agressifs. Donc, même si, en faisant des examens, on ne trouvait pas de maladie à cet endroit-là, en 20 et 30 % des enfants récidivaient au niveau du système nerveux central s'il n'y avait pas un minimum de traitement, et la radiothérapie crânienne en faisait partie. Si on regarde les lymphomes hodgkiniens, en général, la radiothérapie est appliquée sur les aires d'atteinte, dont souvent la maladie principalement est au niveau du cou, au niveau du thorax. Donc, c'était les deux endroits où on pratiquait de la radiothérapie. Rapidement, en pédiatrie, avant d'avoir les effets qui sont les effets vraiment à long terme, 15 ou 20 ans plus tard, on s'apercevait que chez les enfants en croissance, ça causait des problèmes importants d'avoir de la radiothérapie. Pourquoi? Parce que les ondes qui étaient irradiées, en fait, à des doses qui étaient plus élevées, avaient des problèmes au niveau de la croissance. Donc, on créait des déformations, que ce soit des scolioses, parce que la radiothérapie avait empêché. La radiothérapie n'était pas distribuée de façon équivalente de chaque côté de la colonne, donc il y avait de la fibrose des muscles, des tissus de soutien et aussi des difficultés de croissance. Et comme vous voyez chez l'adolescent, des épaules, un enfant qui n'a pas encore eu sa croissance avec l'élargissement des épaules, à ce moment-là, on empêchait cet élargissement. Donc, on amenait des déformités qui sont cosmétiques, mais qui sont aussi fonctionnelles par la radiothérapie. Donc, rapidement, en pédiatrie, on essayait de se dissocier ou s'éloigner des doses de radiothérapie à cause des effets qui étaient, je dirais, à moyen terme chez notre population. Et on s'est aperçu avec le temps ou les années, et que ce soit en pédiatrie ou en adulte, que d'autres complications qui étaient liées au traitement de radiothérapie. Et si vous regardez, comme c'est des traitements des années 60 et 80, et maintenant, on a 20 ou 30 ans après l'application de ces traitements-là. Pour la radiothérapie crânienne, ce qu'on retrouve, des pertes auditives, des cataractes, parce qu'on irradie une partie quand même avec la radiothérapie des yeux. Particulièrement chez les enfants, on avait des troubles ou des déficits neurocognitifs qui fait qu'ils avaient des difficultés de concentration à l'école, des problèmes scolaires, surtout quand ils atteignaient des sphères un petit peu plus élevées du point de vue de l'éducation. Début des mathématiques, ça allait, mais quand on commençait à parler de multiplication ou de physique ou de sciences un petit peu plus, ils étaient incapables de suivre, donc beaucoup de décrochage scolaire à cause de ça. Des tumeurs cérébrales secondaires à la radiothérapie reçue, des pubertés précoces, parce qu'on a quand même une glande qu'on appelle la glande hypophyse qui fait le contrôle de plusieurs hormones du point de vue fonctionnel. Donc, des pubertés dictatures, des enfants qui ne grandissaient pas bien, qui avaient des problèmes d'obésité aussi, qui étaient reliés à la radiothérapie crânienne. Et si on regarde pour la radiothérapie autre que crânienne, dépendamment des régions qu'on irradiait, on avait aussi des problèmes avec les doses qui étaient plus augmentées, des thyroïdes qui ne fonctionnent pas, jusqu'à 30 % avec les doses qu'on utilisait avant. Des enfants allaient devenir hypothyroïdiens dans les années suivantes, souvent entre 3 et 8 ans après la radiothérapie. Des problèmes dentaires parce qu'on irradiait un mandibule, en fait des dents qui n'avaient pas fini leur croissance encore. Aussi des problèmes respiratoires pour les radiations ou des problèmes cardiaques. Qui était quand même important avec ces doses de radiothérapie-là. Donc, les succès dans les traitements qui ont continué au courant des années, okay, les succès des traitements, le taux de guérison des années 60 et 80 était probablement aux alentours de l'ordre de 50 % chez la population pédiatrique, mais ont été associés avec beaucoup de problèmes à long terme chez ces patients-là. Donc, si vous regardez un tout petit peu, et c'est un petit peu ce qui a modifié aussi dans la pratique adulte l'utilisation de la radiothérapie, c'est que lorsqu'on regarde dans la population pédiatrique, si on les suit au courant des années, tous les zones qui ont été irradiées sont susceptibles de développer des cancers secondaires. Et ces cancers-là, il n'y a pas de plateau encore. Donc, à 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après le traitement de radiothérapie, les plateaux continuent d'augmenter. C'est-à-dire qu'on continue à avoir une augmentation des cancers dans les zones qui ont été irradiées par rapport à la population normale. Et ce plateau-là n'est pas encore atteint. Et comme les enfants sont traités à 15 ans ou à 16 ans, mais 30 ans, c'est la même chose. On se retrouve à 35 ans. À 40 ans, donc dans une zone d'une population où les cancers habituellement commencent, mais eux sont quand même sont présents à ce moment-là de façon importante. Et ça, ici, c'est une courbe pour le lymphome non-Hodgkinien où la radiothérapie était moins présente. Ici, on voit regarder un tout petit peu le même type de courbe pour les lymphomes Hodgkiniens où la radiothérapie est quand même fait partie encore beaucoup des traitements. Actuellement, on se retrouve avec des 20 à 25 de taux d'incidence, de pourcentage d'incidence de néoplasie secondaire qui semble être lié principalement à la radiothérapie. La chimiothérapie a cependant certains effets, entre autres les leucémies secondaires sont en général reliées à la chimiothérapie. Donc, ce qu'on remarque dans les tumeurs secondaires, c'est qu'il y a une association qui est très directe lorsqu'on reçoit de la radiothérapie en bas âge. Aussi, lorsqu'on reçoit de la radiothérapie avec des doses croissantes, plus la dose reçue est importante, plus les risques de développer un cancer secondaire est important. Pour vous donner des exemples, des choses qui sont actuelles maintenant, quand on parlait tout à l'heure de survivance et de besoin de surveiller, il y a un besoin pour plusieurs types de complications qui sont des complications médicales, autres que cancer, qui sont aussi des complications psychosociales reliées à la maladie et reliées à des effets secondaires de la maladie aussi. Mais il y a aussi des complications oncologiques secondaires à ce qu'on a fait. Donc, si on regarde, par exemple, pour les jeunes femmes qui ont eu une radiothérapie au niveau de leur thorax avant l'âge de 16 ans, okay, les incidences cumulatives de cancer du sein à 45 ans sont de 20 %. Donc, si on a eu de la radiothérapie avant 16 ans, aux doses que l'on utilisait avant, là, je vais mentionner, les risques de faire un cancer du sein entre 25 ans et 35 ans sont 200 fois plus importantes que la population normale de 25 à 35 ans. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas nécessairement beaucoup de patients qui vont faire un cancer du sein, c'est que le cancer du sein à cet âge-là est très peu fréquent. Mais clairement, une augmentation. Et si on regarde chez les femmes qui ont plus de 45 ans, le risque est deux fois plus élevé. Mais le cancer du sein à cet âge-là est très prévalent. Ça fait que deux fois plus, ça augmente énormément la quantité de cancer du sein chez les patients. Et si on regarde les cancers de la thyroïde, puisque souvent on irradie le cou, on a 18 fois plus de cancers de la thyroïde que la population normale lorsque les enfants ont été irradiés en bas de 10 ans. Dans la région de ça. Et de la même chose pour les cancers osseux lorsqu'on a eu de la radiothérapie au niveau d'un os. Les cancers osseux sont peu fréquents, cependant, 133 fois plus la normale, ça devient quand même un pourcentage qui est mince, mais clairement associé à des doses importantes de radiothérapie. C'est un peu pessimiste comme tableau actuellement. Si on regarde la radiothérapie crânienne que l'on donne, souvent en prophylaxie, en fait, ou que l'on donnait en prophylaxie chez les lymphomes non-Hodgkiniens, ce qu'on a fait, en fait, grossièrement, c'est qu'en faisant des études multidisciplinaires, l'incidence des cancers pédiatriques ou l'incidence des lymphomes pédiatriques, elle est très petite si on compare à la population adulte. Donc, il y a très longtemps, en fait, il y a des groupes multidisciplinaires qui se sont associés, donc différents hôpitaux. Le groupe principal actuellement étant le COG, qui est le Children Oncology Group, qui est un groupe américain, mais à l'intérieur duquel la grande majorité, ce n'est pas la totalité des hôpitaux pédiatriques en Amérique est associée. Il y a aussi des hôpitaux européens, des hôpitaux en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique centrale, qui font faire des études cliniques regroupées ensemble pour essayer d'améliorer les thérapies chez les enfants. Et ce qu'on remarque et ce qu'on a pu réussir avec les années, en fait, c'est de presque éliminer la radiothérapie crânienne chez les enfants. Qu'il est maintenant, environ peut-être 5 à 10% des enfants vont recevoir une radiothérapie crânienne et les autres n'en recevront pas. Il y a des remplacements par la chimiothérapie. Donc, sans diminuer l'efficacité, on est arrivé quand même à diminuer plusieurs des effets secondaires. Ce que l'on fait maintenant, cependant, on va le voir dans 15 ans ou dans 20 ans pour s'assurer qu'on a vraiment changé l'évolution des complications à long terme. Donc, certains agents chimiothérapie ont pris la place des agents chimiothérapie qui pénètrent le système nerveux central et qui permettent d'éliminer une maladie microscopique qu'on n'arrive pas nécessairement à voir avec les examens qu'on a actuellement. Cependant, il y a quand même des déficits neurocognitifs qui sont reconnus dans la population, donc il y a du chemin à faire encore de ce côté-là. Ici, on regarde Donc, la radiothérapie aussi à l'extérieur du système nerveux central, en pédiatrie, il y a eu beaucoup d'études multicentriques qui ont été effectuées pour comparer certains agents chimiothérapie versus chimiothérapie avec radiothérapie. Et en fait, dans les lymphomes non-Hodgkiniens, la radiothérapie a été mise de côté, sauf de façon très, très exceptionnelle. Donc, effet secondaire à long terme qu'on pense améliorer dans les années qui s'en viennent. 3 minutes, correct. Si on regarde aussi, on a réussi aussi avec les années à réduire les doses. Donc, on a réduit les champs, les appareils sont meilleurs, les doses ont été réduites avec une efficacité qui, pour l'instant, semble être équivalente, du moins à 5 ans ou à 7 ans. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est de voir dans le futur si on va arriver à diminuer les effets secondaires à long terme, entre autres, on sait pour certains. Donc, les patients qui ont des hypothyroïdies maintenant sont infréquents, c'est de l'ordre de 5 % au lieu de 30 % parce que la radiothérapie a diminué. Mais l'effet qui nous inquiète le plus sur les cancers secondaires, on a l'impression qu'on commence à diminuer les cancers du sein chez la population de jeunes femmes, mais on n'a pas encore le long terme pour évaluer les traitements ou les modifications de traitement qu'on a fait actuellement. Et depuis les 5 dernières années, on est en voie ou on est en essai d'éliminer la radiothérapie des traitements pédiatriques. En fait, depuis certaines années, avec l'acquisition de nouveaux appareils qui nous permettent d'un petit peu plus d'évaluer la réponse au traitement, les répondeurs rapides, par exemple, de Lomanzoshkin, plusieurs d'entre eux n'auront pas de radiothérapie par la suite. Donc, si on regarde les lymphomes non-Hodgkiniens pédiatriques, le traitement maintenant, c'est de la chimiothérapie et c'est vraiment adapté au type de lymphome. On discutait plutôt que c'est l'importance de connaître exactement le type de lymphome. Et en pédiatrie, pour les lymphomes agressifs, c'est super important. Parce que, par exemple, si on parle de lymphome de Burkitt, les lymphomes de Burkitt ont un traitement très court, c'est jamais court quand on reçoit de la chimiothérapie, mais qui dure environ 3 mois. Mais c'est un traitement qui est très agressif, avec beaucoup de complications aiguës, et les enfants sont hospitalisés presque la totalité de ce traitement-là. Cependant, si le traitement est vraiment axé sur de multiples chimiothérapies, donc les effets secondaires à long terme sont minimales avec ce type de traitement-là. Donc, on accepte des toxicités aiguës pour qu'il y ait moins de problèmes quand ils auront, dans 20 ans ou dans 30 ans, quand ils seront des adultes. Pour les lymphomes de Hodgkinien, actuellement, il y a plusieurs types. Ceux qui sont en rose sont peut-être les chimiothérapies qu'on utilise un petit peu plus en pédiatrie. Et la radiothérapie maintenant est vraiment basée sur la réponse à la chimiothérapie, la rapidité de la réponse et l'extension de la réponse qu'on va avoir au départ. Donc, on diminue graduellement et les doses et les champs de radiothérapie. Et une bonne partie de ces patients-là maintenant n'auront plus de radiothérapie. Le problème, c'est qu'on a un petit peu plus de récidive quand on n'utilise pas de la radiothérapie. Mais si, par contre, une grande population d'enfants n'auront pas les complications de la radiothérapie, et de ceux qui récidivent, comme on en récupère en général la moitié, on finit par avoir à peu près des taux de survie à long terme qui sont équivalents. Et je m'en viens. Donc, les traitements de la chimiothérapie sont aussi, cependant, ont beaucoup d'effets secondaires. Et c'est un peu la même chose. Les effets augmentent lorsque les reçus en bas âge et augmentent aussi avec les doses cumulatives qui sont croissantes. Par exemple, les anthracyclines, vous avez peut-être entendu d'autres mots pour nommer d'adriamycine, d'oxorubicine, de neurubicine, qui sont une famille qui ont des complications cardiaques qui sont importantes. Avant, on parlait de plus de 500 mg par mètre carré, donc selon la surface corporelle. Après ça, on a recommencé à remarquer, après 300, qu'il y avait peut-être, selon certaines, jusqu'à 10 % des personnes qui vont avoir des problèmes d'insuffisance cardiaque dans le futur, et ceci, c'est sur de nombreuses années après. La population pédiatrique, lorsqu'on a un enfant qui a 2 ans, qui a un cœur, qui est tout petit, qui n'est pas formé encore, mais à des doses de 100 ou 150 mg par mètre carré, on peut avoir de la toxicité cardiaque qui est importante. D'où l'importance, lorsqu'on dessine un traitement en pédiatrie, de penser à court terme et de penser surtout à long terme. Et là, je vais aller rapidement, il y a plusieurs autres complications qu'on retrouve avec les traitements. Mais chacun des agents, ce qu'on essaie de faire avec le temps, c'est d'accepter en pédiatrie peut-être des toxicités aiguës plus importantes, qui, heureusement, parce que les enfants sont sains, n'ont pas d'autres choses habituellement que leur cancer. Ils n'ont pas rarement des problèmes cardiaques ou autres qui sont sous-jacents. Et ils ont une famille qui, lorsqu'il y a une complication, les amène à l'hôpital. Ils ont souvent un support qui est grand, ce qui fait que lorsqu'il y a de la fièvre et que le système immunitaire n'est pas bon, ils sont à l'hôpital à l'intérieur d'une heure. Ils ne sont pas à la maison parce qu'ils ont 22 ou 23 ou 24 ans. Ils disent, je vais attendre un tout petit peu avant d'y aller. Je vais attendre de me sentir moins bien. Et ça, c'est un gros plus en pédiatrie d'avoir cette famille-là derrière. Donc, on a été en pédiatrie, on accepte ça pour essayer de diminuer les doses cumulatives en pensant au futur. Aussi, on utilise des effets, des polychimiothérapies dont les effets secondaires à long terme sont différents pour essayer vraiment de minimiser le long terme chez ces patients-là. Donc, en conclusion, si on regarde les courbes de survie à moyen terme, donc on va dire de guérison de lymphome, les courbes sont très élevées en pédiatrie. Elles sont dépendantes d'une chimiothérapie qui est souvent agressive. On a l'avantage d'avoir des lymphomes agressifs, donc qui répondent bien à la chimiothérapie, d'avoir souvent un support qui est bien organisé. On est un petit peu chanceux dans le domaine pédiatrique parce que déjà les équipes multidisciplinaires sont en place. Il y a beaucoup de frais qui n'enlèvent pas les frais familiaux, mais par exemple, les patients prennent leur chimiothérapie à l'hôpital. Il y a beaucoup de soutien qu'ils ont, que les familles n'ont pas besoin de supporter, qui est aux frais de l'hôpital pour chez nous. Donc, on est arrivé, malgré, comme je dis, les taux de succès, ce qu'il faut maintenant qu'on essaie de faire, c'est de finir par avoir la petite courbe orange. On sait qu'on n'arrivera pas à éliminer complètement les effets secondaires à long terme. On espère, avec ce qu'on fait actuellement, qu'on va arriver à les améliorer pour que la survie se fasse de façon la meilleure possible en diminuant les doses. Et s'il y a une importance, on parlait de survivance, de clinique, de suivi à long terme. C'est un des problèmes que nous, on a. Donc, on a des patients qui ont eu leur lymphome à 5 ans. On les suit jusqu'à 18 ans et on essaie d'étendre jusqu'à 21, 22 ans. Mais après ça, c'est très difficile de continuer à avoir, parce qu'il y a tout un programme par les équipes multidisciplinaires. Il y a toute une façon de les suivre après, de vérifier, de s'assurer, de faire des mammographies plus tôt. On commence habituellement à l'âge de 25 ans pour les patients. C'est recommandé annuellement de faire une mammographie ou une résonance magnétique des seins chez les adolescentes qui ont reçu de la radiothérapie. Mais de mettre en place ces cliniques-là, j'ai une collègue qui a été formée dans des cliniques multidisciplinaires, mais d'en mettre une en place après l'âge de 18 ans, c'est très difficile. Puis je pense qu'une des raisons, c'est un peu le manque de ressources. Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour le children. On essaie de mettre des cliniques ensemble, mais c'est difficile actuellement. Ce qu'on fait, en fait, c'est que après faire un grand résumé de dossier, des recommandations, quoi que ce soit, je vous dirais que c'est peut-être 60-70% de nos patients ont un médecin de famille et qui prend un peu en charge après, sauf les patients qui ont eu des complications déjà où on va essayer de référer dans un centre tertiaire. Mais c'est très difficile de mettre en place et c'est important de mettre en place ce type de clinique-là.
C'est
pas bien. Merci. J'essaie
d'accélérer un petit peu. J'étais pas certaine que c'était votre chute. Oui, c'était passionnant, docteur Champagne. Écoutez, je ne sais pas si vous aimeriez une ou deux questions. On est un peu serré dans le temps. C'est vraiment une tonne de briques hein, d'entendre ça. Là, ça nous fait un effet bœuf. Mais
merci aussi.
Attendez, Monsieur Léveillé, ne nous laisse jamais tomber.
Je pense que vous avez un succès remarquable. Le développement de la recherche clinique au niveau du cancer chez les jeunes donne des résultats assez extraordinaires. Mais je pense qu'il va vraiment falloir mettre les ressources pour la survivance à long terme. Comment supporter les enfants maintenant qu'on les guérit? Et je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, il y a beaucoup d'efforts à mettre à cet égard.
Et malheureusement, c'est un peu ça. C'est que mais je pense qu'un des gros problèmes, c'est vraiment un petit peu les manques de ressources après. Parce qu'on parlait beaucoup des ressources pendant le traitement, mais de mettre des ressources pour les patients, que ce soit la population pédiatrique, que ce soit la population aussi de jeunes adultes qui par la suite doivent avoir du support. Et on parlait un tout petit peu aussi des familles qui ont des enfants ou des patients adultes qui ont des enfants. Mais ces familles-là, pendant la période où leurs enfants sont malades, investissent beaucoup. Ils doivent aussi laisser leur emploi ou doivent. Et ça amène des problèmes qui sont importants, même après l'arrêt des traitements. Et de la même chose pour les enfants. Imaginez un enfant de 12 ans qui a fait son lymphome d'Hodgkin, qui a 22 ans. Il veut s'acheter une maison avec sa conjointe. Pas capable d'avoir une assurance maladie, pas capable d'avoir d'assurance vie parce qu'il a déjà fait un cancer, pas capable d'avoir une assurance pour une protection, pas de responsabilité, mais en cas de maladie. Il est incapable d'avoir d'assurance. C'est difficile de dire, bien, je vais avoir des enfants puis je ne leur laisserai rien s'il m'arrive quelque chose de support ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a tout un impact de la survivance chez ces patients-là qui est un impact aussi social qui est important.
Merci, Dr.
Vraiment du travail à faire auprès des compagnies d'assurance. My God.
Je peux vous dire, je ne sais plus quoi écrire pour qu'ils les assurent.
Pour essayer de lire. Merci beaucoup, Dr. Champagne, vraiment.